Nous sommes le jeudi 27 février. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin. Merci d'être à l'écoute, merci d'être avec nous pour commencer cette nouvelle journée, ce jeudi 27 février. Oui, on va probablement avoir plus de nouvelles au cours de la journée. Aujourd'hui, l'acteur multi-oscarisé américain Gene Hackman et son épouse, une pianiste, Betty Arakawa, qui ont été retrouvés sans vie dans leur résidence du Nouveau-Mexique, oui, à Santa Fe. C'est ce que rapportent ce matin plusieurs médias américains. On n'a pas la cause du décès du couple. Rien n'indique qu'il y a eu un acte criminel. Le chien également du couple a été retrouvé sans vie dans leur domicile. Donc, une histoire assez particulière avec encore beaucoup de points d'interrogation. Mais chose certaine, ça va certainement être appelé à se développer. Vous allez en entendre parler aujourd'hui dans les actualités. Sinon, Vincent Maisonneuve est avec moi ce matin. Bonjour, Vincent.
Bonjour, Mathieu.
On va revenir sur sa clique.
Oui.
Parce que ce dossier-là continue de faire couler beaucoup d'encre et de créer beaucoup de remous à l'Assemblée nationale.
OK. Oui, ça crée beaucoup de remous. La vérificatrice générale, rappelons-le, qui, en étudiant les livres, s'est rendu compte qu'il y avait tout un cafouillage derrière l'élaboration de cette plateforme numérique pour la Société d'assurance automobile du Québec. 500 millions de $ de coûts supplémentaires. Maintenant, l'opposition veut savoir pourquoi ces dépassements de coûts. Qui savait? Qui est responsable? Le gouvernement qui dit ne pas avoir été mis au courant de tous les détails. Bref, ça continue de hanter le gouvernement Legault qui n'est pas capable pour l'instant de se débarrasser ou de faire taire là, ce scandale qui remoue l'Assemblée nationale. Il y a eu un échange assez corsé durant la période des questions hier. Je vous fais entendre tous ces commentaires-là.
Parfait. On y revient dans les prochaines minutes. Je me tourne vers Véronique Mira, la météo. Bonjour Véronique.
Bonjour Mathieu.
Parce que bon, c'était doux hier. C'est pas trop froid
quelle
ce matin.
Journée,
c'était une journée de printemps hier. En allant chercher les enfants à l'école, le soleil, la neige qui fondait.
Oui, vraiment.
J'avais une impression d'avril quelque part.
Effectivement.
Là, mais bon, on est le 27 février, voilà. Donc le froid sera de retour. D'ailleurs, ce matin, c'est plus froid que ce qu'on avait hier comme température.
Exactement. À Montréal, vous avez raison, c'est pas trop agressant. Là, moins 3, mais dès qu'on s'éloigne un peu, les Laurentides, Québec, l'Outaouais, moins 8, moins 10 ce matin. Donc, c'est sûr que ça paraît. On aura quand même une journée avec des températures qui vont tourner autour du point de congélation. Là. Donc, moins 1 degré, ça pourrait aller jusqu'à 2 par endroit. Et on a ce système qui est en route. Donc, une tendance à l'ennuagement ce matin. Neige qui va commencer fin de matinée. En après-midi pour la région de Québec, 5 à 7 cm, neige mouillée qui s'écrase en touchant le sol. Mais par contre, ça peut tomber quand même assez intensément en cours d'après-midi. Donc, ça peut déranger. Ça va être mêlé de pluie pour les secteurs les plus au sud, principalement. Les accumulations, c'est à peu près les mêmes pour tout le monde. 5 à 7 cm, évidemment, quand c'est mêlé de pluie, ça amoindrit un petit peu le total au sol. La nuit prochaine, le froid se réinstalle derrière ça. Donc, moins 8 Montréal, ça variera entre moins 8 et moins 15 un petit peu partout. Demain, vendredi, des flocons le matin pour l'Estrie et Québec. Ailleurs, ça se dégagera dès la matinée. Plutôt beau, quand même froid. Des températures maximales là, de moins 6, moins 9 degrés. Et l'autre système nous arrivera samedi. En fait, je dis samedi, mais dans la nuit, de vendredi à samedi. Vendredi minuit jusqu'à samedi fin de journée. 10, 12 cm possible. Donc, encore là, une accumulation qu'il faudra pelleter, tasser, mais une neige très légère, très volatile, parce que des températures de moins 10, moins 12 quand ça va commencer. Et samedi, on demeure dans le secteur froid avec un mercure autour de moins 4, moins 5 degrés. Donc, quand même, un peu de neige pour commencer la fin de semaine. Une fin de semaine qui va ressembler plus à l'hiver qu'au printemps, même si c'est la première de mars. Il fera beau dimanche, mais moins 10, moins 12 comme maximum. Heureusement, ça va remonter un peu pendant la relâche. Là, il y aura un peu de tout côté météo. On fera le portrait global de la relâche demain.
Oui.
Mais dans l'ensemble, il y aura un petit peu de tout. Cette neige-là est commencée du côté de l'Abitibi, 5 cm pour aujourd'hui. Ça s'ennuage vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. La neige commence cet après-midi, fin de journée ou ce soir. C'est un 5 à 7 cm, pas plus non plus. plus pour l'est du Québec. Température autour de zéro aujourd'hui. Ce sera plus froid un petit peu demain. Pour ce qui est de l'Ontario, on a un avis de neige pour la portion nord seulement, 15-20 cm à partir de ce soir jusqu'à demain matin pour le secteur de Thunder Bay. Ailleurs, c'est plutôt une neige fondante, mêlée de pluie, 1 à 4 degrés. Ottawa, 5 à 7 cm de neige mouillée. Ça commence ce matin. Vers Vancouver, ça s'ennuagera. On aura d'autres averses en fin de journée. On tourne autour des valeurs de saison et la douceur se poursuit du côté d'Edmonton, Calgary. 9 à 15 degrés, plutôt beau temps, très venteux cependant. Soleil sur le sud de la Saskatchewan, 4 degrés, des vents assez présents et un petit peu plus près du point de congélation vers Winnipeg avec un mélange pluie-neige cet après-midi près de zéro.
Merci Véronique.
Bonne journée.
Bonne journée. Olivier Pellerin se joint à nous pour parler sport. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Parlons de la famille de Gilles Villeneuve qui souhaite redonner un peu de lustre à la légende du pilote québécois qui a été malmené récemment. On n'a qu'à penser à cette histoire de statue volée devant le musée Gilles Villeneuve, justement.
Oui, c'est ce qui a fait. Ça a été la gourde qui a fait déborder le vase pour la famille de Gilles Villeneuve, cette statue qui a été volée devant le musée de Berthierville, le musée de Gilles Villeneuve. Mm-hmm. Et on apprend ce matin, c'est dans un texte publié dans le Journal de Montréal, que la famille va rapatrier des objets, en fait, va se réapproprier la légende de Gilles Villeneuve pour mieux la faire rayonner tant au Québec, mais à l'international aussi. Il y a plusieurs petits moments comme ça qui sont venus irriter la famille, entre autres Mélanie Villeneuve, qui est citée dans l'article, qui a fait quelques visites au musée de Berthierville. Elle disait que ça prenait la poussière, qu'il y avait une vétusté du musée qui ne rendait pas hommage à la grandeur de Gilles Villeneuve. Il y a eu cette statue, comme je le disais, qui a été cette goutte qui a fait déborder le vase, mais aussi un comptoir de location de camions qui avait été ouvert dans les locaux du musée et qui, pour elle, n'avait pas sa place. Ouais. Donc, voilà la famille qui va tenter de faire rayonner, oui, au Québec, mais à l'international, peut-être même au Grand Prix de Montréal. On dit qu'il y a des initiatives qui seront mises en place pour mieux faire connaître auprès des jeunes le grand talent de Gilles Villeneuve et de l'importance qu'il a eu pour la course automobile, tant au Québec, au Canada, mais même à l'international à l'époque où il pilotait là, ses Ferrari et ses Ferrari. Donc, beaucoup de travail à faire. C'est pas une guerre ouverte, dit-elle, avec le musée, mais simplement un désir de la famille. Donc, oui, de Mélanie Villeneuve, mais de son frère Jacques et de sa mère Joanne aussi, de vouloir relancer un peu l'image de Gilles Villeneuve. Donc, ça fera beaucoup réagir. J'ai hâte d'entendre les commentaires, moi, des gens du musée de Berthierville aujourd'hui qui n'avaient pas été informés de cette initiative de la famille. Donc, on en saura un peu plus aujourd'hui.
Ouais, parce que c'est pas rien quand même que ce pilote soit rendu derrière le volant des Ferrari. C'est vrai qu'on a tendance peut-être à l'oublier un peu, mais c'est un personnage important de la course automobile, certainement. Au tennis, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov vont accéder aux quarts de finale à leur tournoi respectif.
Ouais, Félix Auger-Aliassime, c'est hier matin qu'il a remporté son match de deuxième tour face au Portugais Nuno Borges en trois manches de 4-6, 6-3, 7-5. Il aura donc comme adversaire ce matin, dans les prochaines minutes, Marin Cilic, le Croate, 36 ans, donc un vétéran qui est là au tournoi de Dubaï avec un classement protégé. Il a été affligé par les blessures au cours des dernières années et donc sera l'adversaire de Félix ce matin. Et hier soir, Denis Shapovalov à Acapulco, au Mexique, a battu l'Américain Alex Mickelson assez facilement en deux manches de 6-4, 6-3. Et il aura comme adversaire aujourd'hui, mais ça, c'est plus tard en soirée, l'Américain, un autre Américain, Marcos Giron, comme prochain adversaire. Donc, ça va bien. Quart de finale pour les deux joueurs qui connaissent beaucoup de succès en ce début de saison.
On connaît les commentaires du président Trump au sujet du Canada. Il y a le sélectionneur de l'équipe canadienne masculine de soccer qui a décidé de répondre à ces nombreux commentaires du président américain.
Il était en conférence de presse en lien avec la phase finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF qui se dérouleront dans les prochaines semaines. Le Canada qui y est impliqué avec les États-Unis, le Mexique et le Panama. Et donc, il a été questionné sur ce qu'on a vécu lors de cette confrontation des quatre nations dans la LNH. Donc, ces deux matchs impliquant le Canada et les États-Unis. Et on lui a demandé ce qu'il pensait justement de cette rivalité. Il s'est attaqué au président américain et cette fameuse notion là, du 51e État américain là, qui est beaucoup remis de l'avant par le président Trump. Il a dit que comme Américain, parce qu'il faut le dire, Jesse Marsh, qui est sélectionneur de l'équipe canadienne, est un Américain qui a représenté les États-Unis comme joueur et qui est maintenant à la tête de l'équipe canadienne. Il a dit « J'ai honte de l'arrogance et du mépris dont nous avons fait preuve envers nos plus anciens alliés, nos alliés les plus forts et les plus loyaux. » Il a dit que l'équipe canadienne allait être prête pour ce tournoi. Mais donc, coup de gueule envers le président américain. Pour lui, c'est un manque de respect pour le peuple canadien qui en a fait tant aussi. Et cette relation qui est longue entre les deux pays. Alors, de voir si ce fameux match Canada-États-Unis, si ça va déchaîner autant les passions que ce qu'on a vu sur la patinoire.
À voir, mais en tout cas, sport et politique qui se mêlent
de plus en plus.
Merci beaucoup, Olivier.
Bonne journée.
Salut, bonne journée.
Au revoir.
Cette controverse du fiasco de la plateforme numérique SACLIC de la Société de l'assurance automobile du Québec continue d'alimenter les débats à l'Assemblée nationale. L'opposition continue de talonner les ministres impliqués, réclame des démissions. Vincent, le premier ministre, a répété que son gouvernement et ses ministres n'étaient pas au courant. C'est vraiment la ligne du gouvernement qui s'appuie, en tout cas en bonne partie, sur le rapport de la vérificatrice générale du Québec.
Et qu'on leur a menti dans les informations ou à propos de ce dossier-là. C'est un cafouillage qui, rappelons-le, a coûté aux contribuables un demi-milliard de plus que prévu et qui a fait enrager un très grand nombre de Québécois. On se rappellera au lancement de SACLIC il y a 2 ans pour les auditeurs de l'extérieur du Québec qui n'ont pas vécu là, cette transition-là de la Société d'assurance automobile du Québec. On va écouter quelques Québécois qui, au fil des semaines, le commentaient sur le lancement de SACLIC.
Le service à la clientèle, est-ce que ça existe ou ça n'existe plus?
Il n'y avait pas de presse à fermer le système s'ils n'étaient pas prêts à rouvrir. Alors, c'est là-dessus, ils sont fautifs.
C'est vraiment de la chenoute, mettons.
Je suis allée ce matin à la salle, on m'a dit d'aller à Dorval. Je suis allée à Dorval, on m'a dit de venir ici.
On est tanné d'attendre ici.
C'est ordinaire, c'est la seule affaire que j'ai à dire.
Pour faire un paiement, c'est incroyable. Je dois tourner en rond pour faire des paiements.
Oui, on se souvient de ces files d'attente devant les bureaux de la SAQ. À un moment donné, il y avait même eu des roulottes chauffées pour que les gens attendent aux choses. C'était vraiment, vraiment un cafouillage complet. Et il y a le rapport de la vérificatrice qui a démontré à quel point le projet a été mal géré, Vincent, mais que les ministres responsables et le premier ministre répètent qu'ils n'ont pas été informés.
Oui, l'un des anciens dirigeants du projet SACLIC, Carl Malenfant, a dit au Devoir, au quotidien Le Devoir, en début de semaine, que le ministre Éric Kerr, ministre du Numérique, était au courant des problèmes. Le ministre et ses collègues disent que non. On va écouter le premier ministre François Legault, le ministre de la cybersécurité du numérique Éric Kerr, justement, la ministre des Transports actuelle Geneviève Guilbeault et l'ancien ministre des Transports François Bonnardel.
Pourquoi aujourd'hui le Parti libéral préfère croire M. Malenfant plutôt que la vérificatrice générale?
Peu, parce que la vérificatrice générale, ce qu'elle dit, c'est que les rapports qui nous étaient faits étaient incomplets.
Et ne comme si on était hors de
la situation. Non, mais la même chose au niveau des ministres.
Il a dit que vous étiez au courant.
Non, non, mais c'est faux.
La vérificatrice générale, entité très crédible, a confirmé qu'on nous a menti.
Non, c'est assez contradictoire de voir un homme qui a été responsable du projet en grande partie contredire ce que la VG dit.
Est-ce que, Mathieu, la vérificatrice générale a dit dans son rapport que les ministres n'avaient pas été informés? Bien, on va laisser Guylaine Leclerc répondre à cette question-là.
Je ne suis pas en mesure de répondre en relation avec les ministres.
Pas conclure que les ministres n'étaient pas informés.
Bien, moi, je ne suis pas en mesure de le savoir.
D'expérience, si le CA n'est pas au courant, est-ce qu'on peut déduire que les ministres sont pas au courant ou non?
Je ne suis pas en mesure de conclure ça.
Oui, c'est un petit peu plus nuancé dans ses réponses, dans les réponses de Mme Leclerc. Ce qui nous ramène à l'opposition qui, en tout cas, réclame la démission des ministres responsables.
Oui, au nom de la responsabilité ministérielle, justement, Éric Kerr, Geneviève Guilbeault et François Bonnardel doivent démissionner. Dans l'ordre, on va écouter le libéral Marc Tanguay, la solidaire Huba Gazal et le péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon.
Ils cachent la vérité et il y a une responsabilité ministérielle qui est bafouée. La conséquence avant la CAQ, c'est que le ministre devait quitter.
Ça prend combien d'argent public gaspillé à un ministre caquiste pour perdre sa job?
À entendre le premier ministre, non seulement la CAQ n'est responsable de rien, ils sont des victimes. Que vaut la parole du premier ministre?
Le dossier SACLIC, Mathieu, est devenu radioactif pour le gouvernement. Je vous donne un exemple qui nous vient de notre collègue Daniel Boily. La présidente du Conseil du Trésor veut réévaluer la toute récente nomination du nouveau président de l'Office des professions. En raison de liens allégués avec le dossier de SACLIC, il faut dire que le nouveau président de l'Office, Pierre E. Rodrigue, a fait carrière dans la fonction publique québécoise, notamment comme sous-ministre au ministère de la cybersécurité du numérique, responsable du dossier SACLIC.
Merci beaucoup, Vincent.
Vous en prie.
Bonne journée. Je me tourne vers Mario De Ciccio, qui est dans notre studio d'Ottawa. Bonjour, Mario.
Bonjour.
Ben, revue de presse. Et quand je disais que ça continue de faire couler beaucoup d'encre, on en a une autre preuve ce matin. C'est en une du Devoir. Le Devoir nous dit qu'Éric Kerr aurait été informé des dépassements de coûts, de SACLIC dès 2022.
Oui, lors de notamment de deux réunions qui ont eu lieu en 2022 avec des hauts dirigeants de la SAC pour discuter des enjeux du projet, M. Carr a affirmé n'avoir reçu que des rapports indiquant que tout allait bien, ce que contredisent d'une part des témoignages et ben, une portion du rapport de la vérificatrice générale, mais surtout ce que le témoignage de M. Carr Malenfant qui avait donné sa version des faits hier au Devoir. Lui, c'était lui qui était en charge du projet de renouveau numérique de la SAC. On a entendu là tous les commentaires des ministres. C'est sûr, ça continue de faire jaser tout ça. Plus tard, M. Carr a dit que oui, il en avait entendu parler, mais ça reste pas clair là exactement. Donc, il continue d'une part de continuer de... Il continue de dire qu'il n'était pas au courant que ça allait si mal, mais on en apprend un peu plus aujourd'hui là, dans les pages du Devoir. Et bien entendu, ça fait jaser dans tous les médias, tous les chroniqueurs, ou la grande majorité, beaucoup de chroniqueurs dans la presse québécoise aujourd'hui, ce matin.
Et dans la presse plus de ce matin, la ministre Pascale Derry, ministre de l'Enseignement supérieur, serait intervenue dans un autre cégep au sujet d'un cours en particulier.
Oui, d'un cours de littérature palestinienne, cette fois-ci au Cégep Vanier. Et si on dit un autre, c'est bon, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on parlait d'une histoire similaire qu'elle était intervenue au Cégep de Dawson pour un autre cours similaire. Dans ce cas-ci, bon, on parle d'un cours, comme je disais, sur la littérature palestinienne au Cégep Vanier. Peu avant son intervention, il y a aussi un organisme de lobbying juif qui avait tenté d'exercer des pressions sur le Cégep Vanier à ce sujet. La ministre, elle, se défend en affirmant qu'elle a simplement posé des questions et qu'elle n'a jamais censuré de cours. Elle aurait simplement demandé est-ce que c'est nécessaire d'avoir des sujets comme ça dans ce cours-là, alors qu'on sait que c'est un sujet qui fait jaser ces temps-ci, la Palestine et tout ça. Cependant, plusieurs experts dans l'article estiment qu'il s'agit d'une pression politique indue sur le contenu des cours. Il y a aussi, l'article révèle qu'il y a aussi eu des pressions similaires au cégep John Abbott, où une enseignante a été convoquée pour modifier un passage de son plan de cours sur la littérature palestinienne. Là, bien sûr, on ne parle pas nécessairement de la ministre Derry.
Maintenant, dans le Devoir de ce matin, si on vient au Devoir, il y a une enquête, résultat d'une enquête qui est publiée ce matin sur les automobilistes qui frappent les piétons, souvent sans aucune conséquence judiciaire.
Ouais, il y a une mère d'un enfant frappé par un autobus qui dit une fois que tu frappes quelqu'un, suffit de dire que tu l'as pas vu et finalement tout est correct. Ça c'est son témoignage dans le Devoir. C'est que l'enquête du Devoir révèle que l'inattention et les infractions mineures des automobilistes sont responsables de 42% des collisions fatales impliquant des piétons, des comportements qui incluent les distractions passagères, le non-respect des passages piétons, les erreurs liées aux angles morts. Mais malheureusement, ces manquements, souvent punis de simples amendes de 100 $, n'entraînent généralement pas de conséquences judiciaires sérieuses. Je dis malheureusement parce que plusieurs experts dans cet article disent à quel point si ça n'entraîne pas de conséquences judiciaires sérieuses, comment est-ce qu'on dit aux gens de faire plus attention en voiture? Donc, on voit vraiment, là, surtout que les collisions en voiture sont en baisse au Québec, mais ne le sont pas quand il est question de frapper des piétons.
Merci beaucoup, Mario.
Merci.
Au revoir. Au revoir. C'était la première fois qu'un continent, le continent de l'Europe, se dotait d'un ensemble de lois, des lois audacieuses pour protéger l'environnement, connu sous le nom de Pacte vert ou, comme on dit en France, Green Deal. Cette législation ambitieuse avait pour but de décarboner l'Europe d'ici 2050. En tout cas, une bonne partie des pays qui composent l'Union européenne. C'est en train de dérailler et c'est avec Alexandra Chatzka qu'on va en parler ce matin. Bonjour Alexandra.
Bonjour Mathieu.
Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin de ce Pacte vert?
Mais pas encore, Mathieu. Ici, les choses ne vont pas aussi vite qu'à Washington, mais l'effet Trump se fait sentir. Il a un impact à ce niveau-là aussi. À tous les niveaux, d'ailleurs, l'Europe se prépare à se réarmer, à protéger son territoire contre les appétits non seulement de Poutine, mais aussi de Donald Trump, comme le Groenland. Et toute la stratégie économique et industrielle de l'Union européenne est maintenant impactée. Et le pacte vert, c'était la fierté du premier mandat d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui s'est terminée l'an dernier, une de ses plus grandes réalisations. C'est un ensemble de lois un peu difficile à détailler, très technique, très complexe, je rentrerai pas dans tous les détails, mais pour faire court, le Pacte vert devait faire de l'Europe un continent vert en 2050, comme vous l'avez mentionné dans l'introduction. Alors, juste quelques exemples. Une des lois obligeait les entreprises de 250 employés et plus à rendre compte chaque année des démarches suivies dans le cadre de leur transition environnementale. Une autre directive sur le devoir de vigilance, les entreprises devaient rendre compte du comportement en matière environnementale, mais aussi en matière de droits humains de leurs fournisseurs, de tous leurs fournisseurs. Et finalement, la taxe carbone aux frontières qui était déjà en application expérimentale dans les 27 pays d'Europe.
Et là, tout ça est remis en question. Est-ce qu'il y a un lien avec l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump il y a un mois?
Oui, le gros du pacte vert est aujourd'hui remis en question, exactement. Et c'est pas seulement Trump, d'ailleurs. Aussi, les dernières élections européennes qui ont renforcé la droite et l'extrême droite climato-sceptique au Parlement européen. C'est aujourd'hui un très gros groupe. Aussi, face à la stratégie économique, face à la stagnation économique des pays comme l'Allemagne, qui était le moteur de l'Europe, face au retard de l'Europe par rapport aux États-Unis sur le plan économique, les entreprises ont commencé à se rebeller contre le pacte vert et maintenant aussi la menace tarifaire, 25% dont Trump a encore reparlé hier. Aussi, face à la déréglementation trumpienne à tous les niveaux, les entreprises américaines sont plus compétitives, donc l'Europe a dit ben, « nous aussi ». Alors, l'Europe considère qu'elle n'a plus les moyens de ses ambitions d'être le leader en matière environnementale. Alors, les nouveaux mots d'ordre aujourd'hui, ce n'est plus l'Europe verte en 2050, c'est choc de simplification, choc de compétitivité, et les Européens s'apprêtent clairement à faire de la compétitivité leur priorité et non pas l'environnement. Dans les faits, il s'agit évidemment d'un choc de déréglementation, au premier chef, soulager les entreprises de leurs devoirs envers l'environnement, malheureusement. Un exemple, hier matin, sans cri et gare, donc sans avertir qui que ce soit, Ursula von der Leyen a sorti de son chapeau pour présenter à la presse la directive Omnibus, hein, ça nous rappelle quelque chose, le Omnibus, qui, selon la plupart d'observateurs soucieux de l'environnement, dilue le pacte vert complètement, détricote une série de lois dont j'ai parlé tout à l'heure, dont elle-même était, il y a peu, la marraine.
Oui, donc c'est définitif, c'est le début. Jusqu'à quel point ça peut aider les entreprises européennes à faire face à leur nouvel adversaire, l'Amérique?
Bien, évidemment, la directive devra être votée, entérinée en mars par le Parlement européen, mais d'ores et déjà, 8 entreprises sur 10 seront exemptes de se soumettre à la plupart des législations du pacte vert. Seulement les plus grandes, aujourd'hui, plus de 1000 employés seront concernés et pas celles de 250 employés comme avant. Mmh. Grâce à cette directive Omnibus, la bureaucratie, c'est ce que disent les défenseurs, la bureaucratie européenne qui coûte aux entreprises européenne 150 milliards d'euros, elle va être soulagée de 37 milliards, c'est un quart, mais ce plan secret préparé sans étude d'impact, c'est pas certain qu'il améliorera la compétitivité. On verra si ça sera le cas, mais l'industrie européenne jubile déjà que ça va les aider.
Merci beaucoup, Alexandra. Bonne journée, au revoir tout le monde.